Alors, j'aimerais parler du thème de la vraie gloire. Et ce que j'espère, c'est que ce que je vais prêcher soit glorieux, est un poids éternel de gloire dans nos cœurs, et que ce soit pour élever la gloire de Dieu, et pas pour ma propre gloire, évidemment. C'est ma prière. Vous savez qu'il y a beaucoup de paroles qu'on dit sans prendre vraiment conscience ce qu'elles signifient, ces paroles, ou seulement on prend conscience superficiellement. Je pense par exemple, on dit peut-être facilement, ou des gens disent facilement, je crois, mais ce n'est pas approfondi vraiment, le cœur n'est pas vraiment. Même quand nous disons Amen, des fois, ce n'est pas vraiment le Amen comme il est expliqué. Même peut-être, même, ça peut m'arriver que je demande pardon pour quelque chose que j'ai fait, mais je ne le demande pas avec le cœur. Ou bien celui qui dit je pardonne, pardonne pas vraiment. Donc, c'est pour dire. Alors, posons-nous la question. Que représente la gloire? La gloire. Moi, je vois par exemple une lumière éclatante, un rayonnement lumineux, quelque chose méritant honneur plus que tout. Mais quand je prononce ce mot gloire, et pourtant il est tellement dans la Bible, quand on fait une recherche sur la Bible, là, on arrive au-delà de 100, largement, gloire et glorieux et tout ça. Et c'est même dans notre langage couramment. Je trouve que c'est même fade des fois comment on traite cette pensée de la gloire. Et je ne sais pas réellement comment exprimer l'immense gloire de Dieu. Comment ce terme m'est-il venu? Vous savez, j'ai le calendrier de la semence. Et samedi passé, le 26, il y avait les versets 6 à 20, 28 à 29 en Matthieu. Et je vais les lire. Pourquoi êtes-vous, Matthieu 6, 28 à 29, pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça, par la gloire? Alors, d'abord, les lys des champs, je m'imagine, ce sont des fleurs, des belles fleurs, qui se fanent en réalité au bout de quelques jours, créées par Dieu, certes, mais qualifié par Dieu lui-même ici dans ces versets de plus beau que les vêtements qui devaient pourtant être magnifiques du glorieux roi Salomon. Voilà. Alors, ça me fait dire, ne nous attachons pas trop à ce qui est glorieux du point de vue du monde, de notre point de vue, souvent, probablement, le point de vue du monde. Car nous savons d'où vient notre attachement à ces gloires éphémères. Romains 3, 23 nous dit, car tous, moi, vous, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Les rois et les gens extrêmement riches, les gens en autorité, aiment particulièrement leur propre gloire. leur prestige, aiment être en honneur, ils aiment leur aura. Mais que cherchaient par exemple les grands et parfois méchants, voire cruels hommes en autorité, cette gloire ils la cherchaient. La liste de ceux que je cite ici n'est pas exhaustive. Je pense on en connaît un bout de les rois de Perse. Même après la période biblique, il y a eu ce qui est devenu l'Iran aussi. Il y avait quand même une recherche de gloire. Aga Khan, non? Ouais. Il avait fait un monstrueux truc à Persépolis, une démonstration de gloire, quoi, de son règne. Il y a César, il y a Néron, il y a même plus près de chez nous, et ça a même donné la naissance à la Suisse, les Habsbourg. Il y a aussi des rois de France, forcément. On parlait du roi de Soleil. Ensuite, il y a eu Hitler. Il y a aussi les fondateurs du communisme. Dès leur arrivée au pouvoir, ils cherchaient leur propre gloire. Staline, certains leaders d'Afrique qui volaient et volent encore leur peuple. Il y a eu Kadhafi, il y a eu les islamistes radicaux sous le couvert d'Allah, et maintenant les présidents de certains grands pays. Je pense que ce qui fait Poutine, c'est pour la gloire de sa personne, c'est d'être montré, moi je suis le plus fort. Mais même le christianisme légaliste a été utilisé pour une vaine gloire. En imposant le christianisme par la force, notamment lorsque pouvoir religieux et gouvernement collaboraient l'un pour l'autre. Dans les gouvernants en France, on connaît ces histoires de Richelieu aussi. Ça, c'était aussi des recherches de gloire de ces personnes, et même s'ils étaient, c'était des personnages religieux. Hein. Celui qui veut se glorifier, il veut en fait se distinguer, et ça c'est de la vaine gloire. Le roi David a prophétisé sur le futur roi glorieux dans le psaume 2 qu'on va lire. Oui, ça c'est une prophétie qui n'est pas qui est encore en cours, qui est partiellement accomplie, mais qui va être davantage accomplie. Alors le psaume 2, pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère. Alors jusqu'au verset d'avant, c'est l'arrivée de Jésus, ça c'est fait, mais maintenant la suite, alors il leur parlera dans sa colère, ça c'est direction tribulation, et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession, les bouts de la terre. Ça, c'est direction millénium. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents, vous, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin. Quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. C'est un drôle de paquet, hein, de condensé dans ce psaume. Et je crois que d'ailleurs Jésus s'y réfère dans les évangiles. Je ne sais pas où, mais ça, c'est mes souvenirs. Dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 5, Jésus prie son Père. Sa prière, c'est avant qu'il aille à la croix. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Rendons-nous compte que avant que le monde fût, Jésus était déjà revêtu de gloire. Il a donc fait un tour dans sa création en venant sur la terre, en s'humiliant. Et Jésus ne cherchait pas à être glorifié pour montrer sa puissance sur terre. Il savait que sa gloire était d'origine au ciel auprès de son Père. C'est pour ça qu'il a prié ça. Et ses prières ont toutes été répondues, à part éventuellement si son Père était d'accord qu'il prenne la coupe. Ça, c'est la seule prière probablement non répondue par Dieu à son Fils. Par son sacrifice sur la croix, sa gloire rayonne sur nous et n'est pas dans l'intérêt propre de Jésus. Ce n'est pas pour lui qu'il a fait ça, mais il a pensé à l'autre. Et qui est l'autre? C'est moi, c'est vous, l'autre. Dieu glorifie par son sacrifice. Il a sacrifié son Fils. Son sacrifice est, comme je le dis, pour moi et pour vous. En 1 Corinthiens 2, 7 à 8, Paul dit: mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Israël, le peuple d'Israël, à la fin de la vie de Samuel, voulait un roi. Dieu a cédé à leur requête et il a demandé à Samuel de mettre en garde son peuple. Alors, c'est un passage, 1 Samuel 8, 9 à 17. Il est dit: et maintenant, écoute leur voix. Seulement tu leur rendras clairement témoignage et tu leur annonceras le régime du roi qui régnera sur eux. Et Samuel dit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit: ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. y prendra vos fils et les mettra pour lui sur son char et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Et il les prendra pour s'en faire des chefs d'un millier et des chefs de cinquantaine, et pour labourer ses champs, et pour récolter sa moisson, et pour faire ses instruments de guerre et l'attirail de ses chars. Et il prendra vos filles pour parfumeuses, et pour cuisinières, et pour boulangères. Et il prendra vos champs et vos vignes et vos oliviers, les meilleurs, et les donnera à ses serviteurs. Et il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Et il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos jeunes hommes d'élite, les meilleurs, et vos ânes, et les emploiera à des ouvrages. Il dîmera votre menu bétail, et vous serez ses serviteurs. Donc, au lieu d'être serviteur direct de Dieu, on a un caporal méchant qui s'appelle roi, parce qu'on voulait un roi dans le peuple de Dieu. Et maintenant, ça se passe aussi dans le monde comme ça. On n'a pas envie. Je ne sais pas, mais je me souviens de mes fils. Ils n'avaient pas envie d'aller à l'armée. Pourtant, c'est la constitution suisse, elle oblige d'aller à l'armée. Enfin, moi, j'étais obligé d'aller à l'armée. Et je ne dis pas que c'est parce que c'est la Suisse, mais c'est les régimes des autorités, ils font ce genre de choses, ils exigent ce genre de choses, n'est-ce pas? Et je peux m'imaginer, il y a certainement des Russes qui doivent combattre maintenant, ils n'ont pas envie, mais ils sont obligés. En Exode 33, 18, il y a quelque chose d'intéressant jusqu'au verset 23. C'est Moïse dit, « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. » Et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera, quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. » Donc c'est Exode 33, 18 à 23. Donc Dieu, la main de Dieu, en fait c'est Jésus qui nous protège contre la colère éventuelle de Dieu, contre le fait de voir Dieu et de devoir mourir. C'est l'image de Christ, le rocher aussi. Et vous savez, Dieu ne nous a pas créés revêtus de sa gloire. Ça, il ne l'a pas fait. Mais à sa ressemblance, par amour, Dieu voulait que nous revenions à lui, non pas par une quelconque contrainte, mais par notre libre arbitre. C'est le vrai amour, c'est pas « tu dois m'aimer », c'est J'espère que tu m'aimes. Hein, c'est ça, le vrai amour. La demande de Moïse était sincère et Dieu lui a répondu à sa manière. Et moi, je suis persuadé que Dieu aime des demandes similaires, personnelles, qu'on peut avoir de notre part, de voir que Dieu va dans notre sens, se montre à nous, dans nos cœurs. De telles demandes deviennent vraiment des rencontres très rapprochées avec Dieu. Je passe à une nouvelle pensée. Paul, en écrivant aux Corinthiens, dit que le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, a été introduit avec gloire. La preuve, Moïse, il devait mettre un voile sur sa face parce qu'on voyait trop la gloire de Dieu reflétée sur son visage, alors que c'est un ministère de la mort. Et ça, c'est 2 Corinthiens 3:7. Mais depuis Jésus, il l'appelle aussi le ministère de la condamnation, glorieux. Donc, c'est la loi, mais nous savons que la loi est humainement impossible à observer à 1000 pour 1000. Hein, peut-être non, 600 pour 1000, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de statistiques. Mais on n'arrive pas à humainement à respecter la loi. Et quelque part, Jésus a dit un seul commandement non respecté, et c'est déjà la condamnation, d'après la loi. Donc, depuis Jésus, ce ministère de la condamnation a été remplacé par un ministère qui est bien plus glorieux. C'est le ministère de l'Esprit. 2 Corinthiens 3:18. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Donc, notre transformation finale, nous entrerons en gloire, nous serons en gloire avec Dieu. Et le dernier passage, le dernier thème plutôt, Pierre, et vous savez, dans son épître, il n'a pas oublié à quoi il a participé lorsqu'il y avait la transfiguration. Nous lisons ça en 2 Pierre 1, 14 à 17, et après nous irons dans l'événement qui est dit là-dessus. Donc 2 Pierre 1, 14, « Car je sais que je la quitterai subitement. » Alors là, il veut dire sa tante. Et ça veut dire qu'il sait qu'il va mourir subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ensuite, le verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et en fait, ça, c'est une référence à ce moment particulier que nous lisons en Luc 9, 28 à 35. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Deux choses. D'abord, Moïse et Élie, qui apparaissent en gloire, c'est des personnes ou enlevées ou mortes des centaines d'années avant. Et on les voit apparaître ici, les vivants de l'époque, Pierre, Jean et Jacques, et Jésus, encore pas crucifié, il parlait avec eux, il les voyait. Donc, c'est une preuve que la mort, ce n'est pas la fin de notre vie, il y a la vie après. Et ou bien on est du bon côté ou du mauvais côté. Et l'entretien qu'ils avaient, c'était sur la mort proche de Jésus à Jérusalem. Parler de son départ et qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait encore, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Nous pouvons croire ce qui nous attend à notre transformation. C'est la gloire de notre Seigneur. Ça, c'est une telle magnifique espérance. Et je crois que surtout les pays anglo-saxons, on dit bien quand un croyant décède, c'est qu'il est entré dans la gloire. Non ? On ne dit pas ça ? Oui ? Ouais. C'est moins courant en français. Il est entré dans la gloire. Et vous savez, entrer dans la gloire, c'est ne plus être tenté. Définitivement plus être tenté de péché. Et est-ce que c'est pas glorieux, ça? Ça, c'est glorieux. Je suis plus tenté et je succombe plus. Il n'y a plus aucun danger, plus aucune imperfection dans mes pensées et dans mes actes. Constater réellement, je constaterai de quoi j'aurais été sauvé. On ne sait même pas de combien de choses on a été protégé, sauvé par Jésus. Et nous serons totalement, 100% utiles pour Dieu. Moi, je crois que c'est un honneur d'être utile pour Dieu. Et nous serons face à face avec Jésus. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous de cette promesse de gloire. Amen. Voilà. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dire aux hommes que tu as mis en charge d'écrire ces paroles dans les Écritures. Merci pour que tu nous aides à croire que c'est vrai et à nous réjouir de cela et à donner plus d'importance à cette vérité qu'à notre vie ici sur terre qui n'est qu'un passage. Merci. Merci de nous aider à rester accrochés à toi. Au nom de Jésus. Amen.